Dans la NFL, plus que 4 équipes encore en vie pour l'avant-dernier week-end d'activité avec un gros point d'interrogation dans le camp des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tom Brady sera-t-il le quart partant de l'équipe de Bill Belichick? Avec nous, Bruno Eppel. Salut Bruno!
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très bien, il n'y a pas à dire. Là. Tom Brady s'est fait plaquer tout bord, tout côté pendant sa carrière, a eu des commotions cérébrales et c'est une coupure au pouce qui pourrait l'empêcher d'être le quart partant dimanche contre une équipe qu'on redoute déjà, les Jaguars de Jacksonville.
Écoute, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour les Patriots, c'est pas une bonne nouvelle pour personne. C'était, entre guillemets, le seul corps arrière de renommée là, qui était dans ce soupe, dans le corps et d'as présentement. Puis là, voilà qu'il s'est blessé à l'entraînement. On dit qu'il va peut-être même être obligé de jouer avec un gant. En tout cas, il y a un paquet de spéculations. Évidemment, du côté des Jaguars, Mario, ce qu'on dit, c'est on l'a déjà entendu, celle-là. On ne croit comme pas l'explication des Patriotes parce qu'on pense que c'est de la poudre aux yeux.
Penses-tu qu'on essaie de leur jouer dans la tête?
J'en ai aucune idée. Ça pourrait être très patriote, ce qu'on voit là, mais de là manquer un entraînement, là, il faut le dire, là, Tom Brady a manqué un entraînement la semaine avant la finale de la conférence. Il faut que ce soit vrai, là. Tu comprends? Mais de là à dire, on n'est pas sûr qu'il va jouer, je serais surpris en maudit que Tom Brady soit pas à son poste pour le premier coup de sifflet. Ça, c'est clair. Maintenant, s'il n'est pas efficace, peut-être qu'on n'aura pas le choix de faire un changement de corps, mais je pense sincèrement que Tom Brady va être à son poste.
Est-ce que ça te fait penser à un certain Jimmy Garoppolo qui est rendu avec les 49ers de San Francisco?
c'est Brian Hoyer. Mais tu sais, c'est un vétéran, mais il n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a vu du jeu de Garoppolo. Là, je vais te dire un mot pour résumer ça. S'il fallait que ce soit Brian Hoyer, tout le monde, le lendemain matin, donnant une défaite des Patriotes, dirait karma. Parce que tu sais que cet échange-là a été controversé, pas à peu près par à peu près tout le monde qui connaît le football. On a trouvé qu'on avait laissé aller Garoppolo pour absolument rien et qu'on aurait peut-être été mieux de le garder.
On remonte à la semaine dernière, avant l'affrontement entre les Steelers de Pittsburgh et les Jaguars. En tout cas, moi, je m'attendais à un match où la défensive, l'une ou l'autre, celle des Steelers ou des Jaguars, allait faire la différence. Finalement, il s'est marqué des points à la tonne. Qu'est-ce que tu anticipes pour l'affrontement de dimanche?
Bien, c'est clair que c'est une chose des choses, ça serait surprenant d'avoir les Patriots à faire prendre au piège, je te dirais, parce que moi, je qualifie que c'était les Steelers ont vraiment sous-estimé les Jaguars, là. Puis là, je vais prendre pour acquis que Tom Brady est efficace. OK? Soyons honnêtes, là. Je vais prendre pour acquis que Tom Brady va être en forme puis va jouer le match qu'il devrait jouer. Si c'est le cas, ben, je m'attends de voir une équipe des Patriots qui va pas sous-estimer son adversaire. Peut-être un peu comme les Steelers l'ont fait. Et arriver avec ils ont l'habitude, de toute façon, d'arriver avec des plans de match où ils éliminent la principale arme en attaque de l'autre équipe. Fait que Leonard Fournette, je ne pense pas qu'il va jouer le coup aux Patriots de leur piler sur le corps comme il l'a fait avec la défense des Steelers. Ça, c'est ma première opinion. Puis la deuxième, ben, c'est Blake Bortles. Blake Bortles a été sensationnel sur les troisièmes essais, oui. Surtout en deuxième demi, beaucoup de troisièmes et 10. Donc la défense des Steelers mettait Blake Bortles en position pour être obligé de passer le ballon pour des troisièmes et longs, Blake Bortles complétait toujours. Je pense pas qu'on va se faire prendre du côté des Patriots. Fait que moi, je pense que ça va être, si les Jags gagnent, un match à bas pointage. Je pense pas que Blake Bortles va faire éclater le cadran là, à Foxborough.
La victoire complètement inattendue dans les circonstances que l'on connaît la semaine dernière des Vikings de Minnesota, est-ce que ça pave la voie à une suite des choses aussi rocambolesques ou aussi surprenantes, on le verra, contre des Eagles que je voyais pas avancer jusque-là, privés de leur quart numéro un, mais respect, ils sont rendus là.
Oui, puis ils sont encore aux preneurs, aux livres, même s'ils sont numéro un, c'est encore eux qui sont pas favoris. Et ça, m'a dit, ça doit être du combustible pas à peu près dans ce vestiaire-là. Là. Deux semaines consécutives où t'es le numéro un pis t'es pas favori pour les preneurs aux livres, c'est de la matière pour motiver. Maintenant, ça va vouloir dire que Nick Foles joue un autre très bon match. Et ça, moi, je pense que c'est là que le bas blesse. Case Keenum, Nick Foles, il y a personne qui les voyait là en début de saison. On va être clair là-dessus. Mais du côté des Vikings, On a moins de choses à gérer défensivement. Les Eagles sont un bon front défensif. C'est difficile de courir sur eux. Mais leur tertiaire est extrêmement vulnérable. Je pense que Case Keenum va quand même être capable d'être efficace. Du côté offensif maintenant des Eagles, Nick Foles pourra pas s'en remettre à son attaque au sol. Je pense pas qu'on va être capable de courir comme on l'a fait la semaine passée, là, durant toute la première demi, pendant que Nick Foles se mettait en marche. On a vu l'attaque au sol qui a contrôlé le match pendant que Nick Foles, lui, ne jouait pas bien. Puis c'est seulement en deuxième demi que Nick Foles s'y met à mieux jouer. Il n'y aura pas ce luxe-là là, contre la défense des Vikings, qui est la meilleure défense de la Ligue. On ne sera pas capable de courir non plus. Je pense des deux côtés, ça va être difficile de courir. Donc, ça va venir à quelle carrière, quel groupe de receveurs va faire le plus de jeux. Puis moi, je vais y aller pour les Eagles perdants dans ce match parce que je pense pas qu'ils ont une aussi bonne défensive. En tout cas, elle n'est pas aussi complète que celle des Vikings.
Les Vikings au Super Bowl, donc Bruno, contre qui?
À mon avis, les Patriots. Et j'assume que Tom Brady est en santé plus que ce qu'on nous laisse croire présentement. Et si c'est le cas, je ne pense pas qu'on va se faire faire le coup que les Steelers... que les Steelers se sont fait faire la semaine passée. Ça me surprendrait vraiment.
Merci beaucoup, Bruno. Bon football dimanche. On se reparle de tout ça lundi.
Merci, Mario. Bye-bye tout le monde.
Bye-bye. À très bientôt. On enchaîne en soccer maintenant. Question de parler de l'Impact qui a vendu deux choix de repêchage contre de l'argent d'allocation aujourd'hui. Accueillons Jérémy Filosa. Salut, Jérémy.
Salut.
Explique-nous donc la stratégie derrière ces décisions-là.
Ben, écoute, ça fait une couple d'années que l'Impact au repêchage, c'est pas très, très, très fort. T'sais, à part Kyle Fisher, là, qui semble vouloir se développer pour être un bon défenseur, pour le reste, là, on s'est trompé souvent. Et là, ben, aujourd'hui, on avait deux choix, un qui était le quatrième et un qui était le septième au total. Et l'Impact, plutôt que de sélectionner des jeunes joueurs qu'on espère développer, on regarde les deux dernières années, Nick Dupuis, Michael Salazar, par exemple, on attend encore que ces gars-là se développent et deviennent des vrais joueurs de la MLS. Donc, finalement, on a fait un pari différent. On a vendu ces deux choix-là à d'autres équipes. On va écouter, si tu le veux bien, Rémi Garde qui nous explique pourquoi.
La stratégie que nous avions décidée avant de venir ici était effectivement celle que nous avons pu appliquer. Donc, nous sommes très contents de qui s'est passé ici. La stratégie était effectivement de récupérer de l'argent pour pouvoir aider à concrétiser les joueurs que nous avons ciblés, des joueurs un peu plus expérimentés que ceux que j'ai pu voir lors de cette semaine au Combine, qui pour moi, je l'ai dit, les joueurs que nous avons vus cette semaine ont un niveau similaire, me semble-t-il, à ceux qui sont actuellement à l'Académie de l'Impact.
T'sais, ce qu'il faut réaliser, Mario, c'est que plus que la Ligue progresse, plus que l'écart est grand entre les joueurs qui jouent au niveau universitaire américain et d'être capable de faire le saut immédiatement en MLS et avoir un impact direct, on peut pas dire là, qu'il y en a une tonne là, qui font le saut et qui deviennent des joueurs réguliers de la MLS. C'est probablement pour ça qu'on a procédé de cette façon-là.
À travers les propos de Rémi Garde, on comprend cependant qu'il doit travailler très très fort depuis des semaines, lui, à regarder des vidéos puis à évaluer le niveau de jeu puis le talent disponible, parce que veut pas pour pouvoir dire ce qu'il vient de nous dire, c'est parce qu'il en a regardé des films. Là.
Ah ben c'est certain, écoute, il nous a parlé de l'équipe U20 de l'équipe nationale canadienne qu'il a regardé de très près. Là, il nous a quand même avoué aujourd'hui qu'il devait mieux analyser certains jeunes de l'académie pour voir s'ils étaient capables de faire le saut avec l'équipe ou pas. Mais lui, il juge que ce qu'il a vu dans les gars au repêchage, ben, c'était pas nécessairement plus fort que ce que l'Impact avait déjà à l'académie parmi les jeunes que possède déjà le club. Donc, ça valait pas nécessairement la peine de repêcher ces gars-là et d'essayer de les développer. Maintenant, la question qu'on lui a posée, c'est, écoute, il est là depuis deux mois à peu près, là. Quel est le plus grand défi et qu'il se rend compte là, qui devient plus compliqué pour mettre ensemble l'équipe qu'il désirait? On l'écoute là-dessus.
C'est surtout la motivation et l'envie pour les joueurs européens ou sud-américains de franchir le pas et de venir en MLS. C'est un élément très important. On ne peut pas attirer des joueurs en MLS uniquement sur une plus-value financière pour eux.
Alors, on se rend compte que on veut faire venir des joueurs d'Europe, on veut faire venir des joueurs d'Amérique du Sud, mais je pense qu'il est en train de se rendre compte que même si tu leur offres plus d'argent, peut-être que d'autres équipes sont pas nécessairement intéressés à venir faire le saut à MLS. En tout cas, pas tout de suite. Là.
Merci beaucoup, Jérémy, et un excellent week-end.
Salut, toi aussi.
Voilà, c'était donc Jérémy Filosa. Ainsi s'achève cette édition écourtée des amateurs de sport. Dans quelques instants, Martin McGuire, Danny Dubé vous accueille à l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens qui rendent visite aux Capitals de Washington. Bonne fin de semaine, tout le monde, et à lundi. Bye.